Aux ordres du cœur, jour 3. Jour frais entre les persiennes, j'ouvre un œil. Des moineaux de contes de fées devisent sur mon balcon. Ils s'envolent lorsque je m'assieds. Oh, ma tête, j'ai l'impression d'avoir dormi 100 ans. J'enfile une robe de chambre et descends dans la cuisine. Elle est là, attablée devant un bol de thé, à feuilleter un journal, elle me sourit. Bien dormi ? Je tire une chaise. Apparemment, elle n'a aucun souvenir de ce qui s'est passé cette nuit, et nous sommes seuls. Très bien, dis-je. Moi, comme un bébé. Et tu sais quoi ? Non. Ce matin, sous la douche, la mémoire m'est revenue.
Ah oui ?
Robin. C'est elle qu'il retrouve.
Que retrouve qui ?
Mais John, enfin ! Quand il prétend qu'il part en voyage, qu'il a des affaires à régler ici, à discuter avec son avocate. Robin. Il voit cette salope de Robin. Elle repose son bol, sûre de ses gestes, fait coulisser son alliance à son doigt. Je ne sais pas ce qui me retient de lui dire ces 4 vérités. Il me prend pour une godiche. Il se trompe, crois-moi, et il se trompe lourdement. Elle a l'air déterminée, prête à en découdre. Je sais que ça ne durera pas. Plus rien ne dure chez elle. Un instant, elle est ma mère. L'instant d'après, elle est une petite fille. Parfois, elle n'est plus rien. Elle contemple son reflet et la glace ne lui renvoie que du vide. Tiens, on dirait qu'une visiteuse est partie. Qui était-ce déjà ? Ne rien demander, Joanne, souviens-toi. Questionner, c'est blesser. Mettre en doute, c'est détruire. Tu crois que je ferais bien ? Reprend-elle. De lui faire comprendre que je sais. Tu es la meilleure juge, maman. Elle passe sa langue sur ses lèvres, se tourne vers le jardin. L'herbe détrempée, les hortensias, le cornouiller du Japon qui frissonne, un vrai tableau. Je vais peut-être lui laisser une petite chance. Elle me sourit. Quelle ordure. Vous connaissez une certaine Robin ? J'accompagne Sapienza au Tesco. Son panier en plastique est rempli de yaourts 0% et de paquets de céréales bio. Elle s'arrête devant les biscuits, remonte ses lunettes sur son nez. Je suppose que c'est ta mère qui a mentionné ce nom. J'espère que je ne suis pas en train de commettre une bourde. Je me suis dit qu'il y avait prescription. Elle émet un petit rire aimable. Robin était la femme avec laquelle John a commencé à tromper ta mère, ici même, à Londres. Vous voulez dire, avant que lui et vous... Elle reprend sa marche. Non, non, Robin, c'était moi. Un code entre nous, pour le jour où il se ferait pincer, ce qui, naturellement, n'a pas manqué d'arriver. Il m'a fallu des années pour retrouver mon vrai prénom. C'est idiot, je m'étais habituée à force. Est-ce que maman a fini par faire le rapprochement ? Sapienza laisse tomber 2 tablettes de chocolat dans le panier. C'est important ? Pour moi, oui. J'essaye de compléter le puzzle. Elle me frôle l'avant-bras. Ah, la vie sentimentale de ta mère. Un roman n'y suffirait pas. Elle a fait des siennes aussi, tu t'en doutes, avant que tu viennes au monde. C'était le cinéma. Tout le monde couchait avec tout le monde. Ta mère n'était pas faite pour ce type de jeu, mais elle a suivi le mouvement. Elle n'avait guère le choix. C'est quoi cette tête ? Tu veux savoir si John me trompait aussi ? Non, je... John était incapable de se contenter d'une seule femme. Dans son système de valeurs, l'adultère s'apparentait à une fatalité. Il ne voulait pas nous blesser, ni ta mère, ni moi. Et pourtant... On ne change pas un homme. Vous n'avez jamais songé à refaire votre vie ? Nous arrivons à la caisse. Je vais être franche, ma belle. Je ne crois pas à cette idée de deuxième chance. La vie, c'est un train. On grimpe et c'est parti. advienne que pourra. Il y a des arrêts, des changements, mais revenir en arrière, ça n'existe pas. Les paysages qu'on a vus, on ne les contemplera qu'une fois. Il faut profiter, du mal comme du bien, du beau comme du rien. Nous sortons. Le ciel est chargé de mélancolie. Un bus passe sans ralentir. Nous regagnons Holland Road. Tout ici respire le calme et la noblesse. Vous voulez que je vous aide ? Tu es gentil. Elle a posé le sac de course sur la table de la cuisine. Son histoire à elle est parfumée à l'eau de rose. C'est celle du châtelain qui tombe amoureux de sa servante. John n'a jamais épousé Sapienza, mais il lui a légué cette maison hors de prix. Ma mère a failli devenir folle en l'apprenant, elle voulait le tuer, mais il était déjà mort. Et il lui a laissé l'essentiel de sa fortune pour payer les droits de succession. Je me pose devant la baie vitrée. Dehors, ma mère est allongée dans un transat, bras ballants sous la bruine. Je fais signe à Sapienza que je sors. Elle m'adresse un pouce levé. Une femme juste, me dis-je, pétrie de bonté et de sagesse. Cette façon de ne jamais s'affoler, de ne jamais s'offusquer. Rien ne l'obligeait à nous recevoir. Tout cela est de l'histoire ancienne pour elle. C'est la vie, voilà sa devise. Menteuse. Ma mère, une mèche de cheveux mouillés en travers du visage. Je vais pour la ranger, mais elle me repousse. Que... Ne te moque pas, s'il te plaît, c'est pire que tout. Maman. John est chez toi, je le sais. J'avale ma salive, elle me prend pour Sapienza. John n'est pas chez moi. Où est-il alors ? Je hausse les épaules. En tournage. Elle a ce rictus amer, le seul qui puisse l'enlaidir. Une fois encore, nous avançons dans le temps. Comme une échelle qu'on gravirait sciemment vers un incendie. Ne me fais pas rire. Tournage. Il ne reste rien de John Solomos Gardner. Depuis qu'il m'a quitté, il ne fait que des petites crottes. Nelly. Entendre son prénom la fait tressaillir. « Quoi, Nelly ?»« John m'a confié quelque chose. » Elle hausse un sourcil. « Allons bon. »« C'est vous qui l'aime. »« Quoi ?»« Acceptez-le, Nelly. »« Il n'a jamais aimé que vous. » Doigts blanchis sur les accoudoirs, elle encaisse. « Quand vous a-t-il raconté ça ?»« Hier, au téléphone. » Où est-il pour de vrai ? Mentir est si facile. Il existe 1000 mensonges possibles contre une seule, une pauvre vérité. Je lui ai posé la question. Il a dit qu'à moi, elle ne révélerait rien. Elle se gratte le front. Mes paroles ont produit leur effet. Sans doute, elle se demande si elle peut me faire confiance. J'aimerais l'entendre de sa bouche. Ça se défend. Elle contemple mon visage. En cet instant, elle ne sait plus qui je suis. Et d'une certaine façon, moi aussi je l'ignore. Son ignorance me dépeuple. Ses vides me contaminent. Elle abandonne le transat, rejoint la maison en titubant. Ses cheveux mouillés pendouillent dans son dos, triste serpent noir. Elle se tord les mains. Sapienza, qui l'attend au sommet des marches, lui pose une serviette sur les épaules. Maman se laisse faire et menée au divan, nous l'aidons à s'asseoir. Je lui allume la télé, une émission de jeu inepte. Ça ira bien pour le moment. Ce soir-là, une fatigue de plomb s'abat sur moi. Il faut que je sorte, que je m'ébroue, que je respire. Je demande à Sapienza. Quelle question, ça te fera du bien. Ma mère ne réagit pas. Recroquevillée, emmitouflée dans un plaid, elle regarde un film. Elle regarde les images. Je lui souffle un baiser, même pas un battement de cils. Dans le bus, casque sur les oreilles, je laisse ma tête brinque-ballée. Picadie, circus furent les scintilles, la vie, les couleurs, la grande illusion. J'ai besoin de voir du monde, de me fondre dans la foule tiède et grouillante, n'être personne, ne serait-ce qu'un instant. Quel soulagement! Exister pour ma mère, c'est comme porter un masque et ne jamais savoir lequel. Londres, parée de nuit, ses lumières, son vacarme, des panneaux immenses vantent un téléphone pliable, une sorcière au visage vert, une montre plaquée or. Je suis en train de remonter Regent Street lorsque mon portable vibre dans mon sac. Papa. Je ne peux pas ne pas décrocher. Bravo, chérie, toutes mes félicitations. Bonsoir à toi aussi. Sans rire, tu as raconté au Pessonneau que tu avais mon aval. Je m'arrête devant la vitrine d'un magasin de jouets, flou délavé, le reflet d'une jeune fille qui n'arrive pas à se sentir coupable. On en avait parlé, papa. On avait évoqué le sujet, jeune fille, je te l'avais dit. Vois ça avec ses amis, après tout, c'est chez eux qu'elle vit. Jamais je ne t'ai donné mon accord pour l'enlever. Marielle Pessonneau est morte d'inquiétude. Je l'ai eue au téléphone, je ne savais plus comment la calmer. C'était le plan. Mais arrête avec le plan. Ce projet est délirant, tu m'entends? Tu ne peux pas reconstruire le monde qu'elle a perdu. Personne ne le peut. Tu feras quoi quand elle t'aura oublié complètement, quand elle t'aura sorti d'histoire, hein? Tu disparaîtras? Je suis déjà sortie d'histoire. Tu veux savoir ce que ta belle-mère pense de tout ça? Non. Elle pense que tu te fais du mal, voilà. Elle pense que tu cherches à me culpabiliser en me tirant sur pied un truc proprement insensé, au cas où tu aurais obligé de oublier ce qu'a expliqué le psy de ta mère. Non, sa pathologie ne s'est pas déclarée suite au divorce. C'est un hasard. Malheureux, certes, mais il faut l'accepter. Elle avait ça en elle depuis des années. Une bombe à retardement. Une foutue bombe. Un jour, tu trébuches et le mécanisme se déclenche. Boum. Ou bien tu ne trébuches pas. Quelqu'un actionne le mécanisme à distance. L'état émotionnel de ta mère, reprend mon père, est trop fragile pour qu'elle puisse voyager dans de bonnes conditions. Ce n'est pas un conte de fées. Ce n'est pas Joanne bâtit un refuge mental pour sa petite maman. C'est de la non-assistance à personne en danger. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Tu as essayé, ma chérie, et c'est tout à ton honneur. Mais ça risque de mal finir. Tu ne dois pas rester seule avec elle. Il faut que je te laisse, papa, j'ai un double appel. C'est elle? On se recose demain. Attends, je voudrais te dire. Je raccroche, enfouis le portable au fond de mon sac. Durant tout ce temps, je suis restée immobile devant ma vitrine. Est-ce qu'une statue peut pleurer? En entrant dans ma chambre, je découvre une boîte posée sur mon lit. Une feuille de papier blanc a été scotchée dessus, l'écriture de Sapienza. Rien que pour tes yeux. Je soulève le couvercle. De vieux cahiers, certains remplis à ras-bord, d'autres à peine entamés. Une graphie d'écolière. Des dates. Avril et juin 1981. Décembre 1982. Septembre 1984. Mars 1985, janvier 1987. Un journal, le journal de maman. Je me laisse tomber sur le rebord du lit et retourne la feuille de Sapienza. Ma chère, j'ai retrouvé ceci au grenier. Je ne sais pas si cela pourra te servir. Ce sont les carnets de ta mère. Tu dois te demander pourquoi John les avait gardés en sa possession et pourquoi je ne vous les ai pas donnés avant. Ta mère ne savait pas qu'ils se trouvaient ici. Elle les croyait perdus et John prétendait qu'elle n'avait nul besoin de les récupérer, que ça n'aurait fait du bien à personne. Je crois qu'il avait raison. À présent, bien sûr, nous faisons face à une situation nouvelle. À présent, il y a ton projet. Quitter le réel, toi aussi, si j'ai bien compris. Embrasser l'illusion de ta mère. Tu es venu ici, m'écrivais-tu, pour mieux connaître ta mère. J'ose espérer que ces pages t'y aideront. Il y a quelques mois, je me suis demandé si je ne devais pas les brûler. Et puis, tu es entré dans ma vie, et c'est une bonne chose. Courage. S. Cette nuit-là, assise au petit secrétaire, à la lumière de la lampe Tiffany évasée, je compulse les cahiers. Un peu ahuri, je chemine en un royaume qui n'est plus, mais que j'ai le pouvoir de faire revivre. À l'époque de ses écrits, cette femme n'était pas ma mère. L'est-elle encore aujourd'hui? Une quinzaine d'années avec elle, c'est peu, c'est bien trop peu. Nelly Mercandier. Nelly au temps où personne ne lui disait maman. Nelly au cours Florent. Nelly jouant Racine, Molière, Pirandello, Labiche. Son âme gonflée d'espoir, plus blanche qu'une voile. Premières amours, jardin du Luxembourg, promenade en forêt de Sénart avec un berger allemand. Orage monstre, passion éphémère, casting. Les doutes, les pleurs, la frustration, la joie de jouer, les rencontres. Les pages filent entre mes doigts, la poudre magique du temps. Je ne lis pas tout. Je saute des paragraphes, parfois des pages entières, j'enjambe des semaines, des mois. Une silhouette se dessine. John déboule dans l'histoire en cow-boy, poussant la porte du saloon du pied, imposant, rigolard, blouson de cuir et cigare aux lèvres. John et sa caméra portative. John et sa veste de marin, son béret de feutre. John le mentor, le pygmalion. L'amant bientôt. Le cinéma. Faire son cinéma. Nelly Mercandier minaude, déploie ses raies. Près du Louvre, les tourtereaux se disputent, se séparent, se courent après, trébuchent et se rattrapent. Dans un hôtel chic donnant sur l'opéra, l'éblouissement d'une pénombre de novembre, ils se découvrent et s'apprennent. Couchée nue sur un lit, Nelly parcourt des scénarios. John fume à la fenêtre, se retourne. Il lui dit qu'elle sera une grande. Déjà, en son esprit, il la modèle, bâtit autour d'elle des fables suaves. J'ai du mal à saisir qui des deux mène le jeu. Y en a-t-il un seulement? Savent-ils ce qu'ils font? John adapte des romans au cinéma. Charles Dickens, Virginia Woolf. Nelly porte des robes anciennes, ses joues sont roses, son sourire candide. La presse s'enflamme pour cette jeune Française surgie de nulle part. Nelly accueille le changement, se plie aux métamorphoses, valse sous des lunes froides, laisse derrière elle ses mille peaux de jeunesse. Que reste-t-il de nos mois successifs? L'enfant et la jeune fille s'étiolent, s'évanouissent. Que nous nous souvenions ou pas, ce que nous avons été n'est plus. Chaque minute, 200 millions des cellules de notre corps s'éteignent, 200 millions d'autres les remplacent. Les 3/4 des atomes qui nous constituent auront disparu dans l'année. Nous croyons nous souvenir. Mais que reste-t-il? Quelques vignettes, 2-3 images volées au temps.